France Info.
Bonjour Olivier Ball.
Bonjour Élodie.
Vous êtes écrivain, l'une des plus grandes révélations du monde du thriller. D'abord journaliste, après avoir obtenu une maîtrise art et spectacle, cinéma et audiovisuel, vous avez rapidement dévié vers le documentaire, les voyages, la culture, les jeux vidéo. Et enfin l'écriture, celle qui raconte des histoires, les vôtres et les nôtres, celle qui vous et nous raconte. Vous êtes lauréat du Grand Prix des Géants du Polar et du Prix de la Ligue Imaginaire, coup de cœur des étoiles du Parisien. Les Limbes était votre premier roman, rapidement devenu best-seller d'ailleurs, de l'auto-édition. Vous avez su convaincre d'abord les lecteurs, ce qui est quand même un fait très rarissime. Avant d'être édité, on suivit l'affaire Clara Miller, La Forêt des Disparus, Méfiez-vous des Anges, ou encore Roche de Sang avec un S, Roche. Aujourd'hui, vous publiez La Meute chez XO édition. L'histoire mêle et entremêle deux affaires d'apparence distinctes. Au centre de thriller, il y a l'ange noir déjà, qui est redoutable, qui est sanglant. L'ange noir tue avec un mode opératoire qui est vraiment très bien rodé. Chacune de ses victimes est enterrée vivante et meurt étouffée. D'un côté, nous avons donc Sophia, qui travaille à la cellule antiterroriste. Elle tente de stopper cet assassin qui s'en prend à des notables. De l'autre, nous avons Gabriel, qui enquête sur l'assassinat à Paris de réfugiés mutilés. Comme les apparences sont évidemment trompeuses, tout est lié à une famille et une meute composée de loups aux dents bien acérées. À travers ces histoires, donc, dans l'histoire, vous nous attaquez à la montée des extrêmes, au groupuscule identitaire. Fallait quand même réellement oser, Olivier Ball.
Alors oui, c'est un sujet qui me tourne autour depuis quelques années. Il est vrai que dans mon écriture, j'ai toujours essayé de m'éloigner de la réalité, de raconter notre époque, mais par des biais un peu divers, par la fiction pure. Mais il est vrai que ce sujet, la montée des extrêmes, m'interpelle depuis vraiment quelques années. Donc je me suis dit, il faut se lancer, il faut raconter cette histoire que tu portes en toi depuis toutes ces années. Donc la première étape, ça a d'abord été la documentation. Évidemment, comme vous l'avez sous-entendu.
Vous avez fait un travail de recherche.
Oui, je pouvais pas prendre ce sujet à la légère. Donc il a vraiment fallu plusieurs mois pour m'immerger dans ce sujet, pour lire des bouquins, rencontrer des interlocuteurs, donc discuter avec un sociologue comme Erwan Leker, spécialisé dans les mouvements d'extrême droite, une psychologue qui a travaillé sur les personnes en radicalisation. Ce genre de profil, et puis ensuite laisser infuser tout ça pour ramener la fiction. J'ai pas la prétention à être un expert, j'ai pas la prétention à faire un essai, moi je raconte des histoires, mais j'espérais qu'avec ce récit, j'allais peut-être aussi interroger les lectrices et les lecteurs comme moi je m'interroge sur cette montée, cette menace en effet de l'ultra-droite en France et en Europe.
Comme point de départ, comme socle, vous êtes parti d'Europol. Selon Europol, l'ultra-droite est la deuxième plus grande menace terroriste en Europe.
Ouais.
En France, 2000 individus sont sous surveillance, c'est pas rien. Selon vous, les mouvements identitaires sont dangereux?
En fait, tous les mouvements extrêmes relèvent d'une forme de fanatisme. C'est ce qui m'intéressait à travers ce récit, c'est de raconter que finalement, qu'importe les croyances, entre guillemets, les fanatiques ont la même démarche, les mêmes finalités. Ceux qui les entraînent, ceux qui les fédèrent, qui les soulèvent, veulent créer le chaos, ce sont des semeurs de haine. Et en fait, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est en effet une forme d'indifférence autour de cette montée de l'ultra-droite. On a quand même des jeunes qui défilent dans les rues de nos grandes villes. On essaye de détruire ces réseaux, mais rapidement, ils se reconstruisent ailleurs. C'est vraiment très mouvant. C'est des gens qui sont très puissants et très vindicatifs sur les réseaux sociaux aussi, qui sont développés aussi comme ça. Et en effet, qui tissent aussi des liens à l'international. Donc, les partis et les groupuscules d'un pays et l'autre se rencontrent, échangent et visent aussi l'Europe et prendre de plus en plus de pouvoir. Et donc, je voulais parler de cette menace, de montrer ce qu'elle raconte de notre époque. Le repli sur soi, cette société de la peur, cet enfermement, ce communautarisme. Et ce que je raconte dans le livre, en effet, c'est qu'on vit tous entre loups. On est des meutes comme ça, qui s'opposent les uns les autres. On s'aboie tous au visage et finalement, le dialogue est de plus en plus compliqué.
Vous parlez des élus, et c'est ça qui est vraiment au centre de cet ouvrage. C'est-à-dire qu'on se rend compte que certaines personnes ont le sentiment d'être des élus et donc d'avoir un sentiment d'impunité, de règne total, de domination. C'est dramatique parce qu'on se rend compte à quel point la société justement subit ce genre de comportement plutôt que de les combattre.
Oui, c'est ça, c'est essayer de raconter que à travers ce sentiment de puissance qu'on donne à ses adeptes, je pense qu'on peut parler, c'est quasiment pour moi un endoctrinement sectaire. J'avais déjà travaillé sur le sujet des sectes dans un précédent livre et j'ai retrouvé des vraies similitudes entre l'endoctrinement ici de ces groupuscules et celui des sectes. Et en effet, en donnant l'illusion de puissance, en donnant cette illusion d'une grande quête, d'une croisade, ce sens du sacrifice, une forme de chevalerie, ce sont souvent des jeunes qui sont un peu perdus, en quête de repères, comme beaucoup de gens le sont dans nos sociétés modernes. Et en donnant cette sensation de vivre au-delà de ce que l'on est, ceux qui tirent les ficelles de ces réseaux vont pouvoir faire ce qu'ils veulent à ces jeunes. Et je pense que c'est cette grande menace, c'est en effet comment les rattraper, comment les ramener à la raison, c'est compliqué.
Il y a une dynamique de chevalier des temps modernes, j'ai l'impression, chez vous, Olivier.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui m'interpelle aussi, c'est d'essayer de montrer que ces mouvements ont souvent le même imaginaire politico-religieux. Donc, c'est un peu prétentieux ce que je dis là, mais c'est que souvent dans l'imagerie,
il y a une projection
qui développe. Oui, il y a souvent cette imagerie très médiévale, les croisés, les chevaliers, le sens de l'honneur, le code de l'honneur, qui les rassemble et qui les fédère. Et donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être de montrer qu'on est dans une époque, plutôt qu'aller de l'avant, on revient en arrière et on n'est pas si loin finalement de choses qu'on a pu voir, même en Syrie, à l'extrême opposé, hein, quand on était à Raqqa ou à Alep. Je trouve qu'il y a des similitudes entre toutes ces croyances et tous ces extrêmes. Ouais.
D'ailleurs, vous parlez des réfugiés syriens
bien sûr.
À travers cet ouvrage. Vous nous obligez à nous ouvrir les yeux. C'est-à-dire qu'on a tendance un peu à détourner le regard.
Ouais.
Et là, vous nous confrontez un peu à nous-mêmes. Vous confrontez le lecteur à lui-même.
Face aux exilés, aux réfugiés qui sont sur nos terres, on a tendance à changer de trottoir ou à détourner les yeux quand on les croise en bordure du périphérique. Moi, le premier. Donc, en fait, encore une fois, j'essaie de pas être moralisateur. Je voulais simplement essayer de ramener à ma toute petite échelle un peu d'humanisme et d'humanité à ces personnes-là. Leur donner un visage, leur donner une histoire. Donc, on va rencontrer Daria Mansour, qui en effet est une réfugiée syrienne, qui est en quête de réponse. Son mari a été retrouvé assassiné.
Elle a traversé 8 pays. Hein,
elle a traversé 8 pays pour arriver jusqu'en France. Elle avait une forme d'espoir en arrivant là, malgré ses blessures, malgré cette usure. Elle a tout abandonné derrière elle. Elle vient pas par choix, elle vient parce qu'elle n'a pas justement d'autre choix finalement. Moi, je voulais raconter une femme forte, brillante, intelligente. J'ai tout fait pour essayer de sortir moi-même des clichés que j'avais sur ces gens-là. J'ai eu envie, voilà, de discuter aussi avec des associations de réfugiés. J'ai un réfugié syrien qui m'a aidé aussi pour toutes les traductions d'arabe syrien qu'il y a dans le livre, parce que je voulais vraiment être au plus près d'une forme de vérité et puis pas tout le temps traduire ce que dit Daria. Je voulais parfois que, voilà, qu'on laisse aussi l'imagination faire. Et donc, voilà, c'est un personnage essentiel du livre. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est peut-être plus Daria qui va ramener le personnage Gabriel parmi les vivants. C'est finalement plus Daria qui va aider Gabriel à vivre plutôt que l'inverse.
Il y a effectivement une envie de nous réunir à travers cet ouvrage, puisqu'il y a beaucoup de petites lumières que vous allumez à droite à gauche et des petites bougies en fait qui sont allumées au fur et à mesure de cet ouvrage. Les deux personnages principaux d'ailleurs incarnent ça. Sophia, elle est d'origine franco-marocaine et elle est assez complexe, elle est remplie de blessures, ce qui est exactement la même chose pour Gabriel d'ailleurs, qui lui travaille à la police judiciaire, il est sous surveillance de la police des polices. C'est aussi un vrai reflet de la société, c'est-à-dire qu'ils ont chacun des blessures, ils sont chacun habités par des blessures assassines même. Et en même temps, ils se construisent, notamment à travers le travail. Ils se vouent corps et âme à ce qu'ils font et ils essaient de le faire bien, de respecter les autres.
C'est
plutôt que se respecter eux-mêmes, d'ailleurs.
Exactement, vous avez parfaitement compris mon livre, ça me touche. C'est toujours compliqué quand on écrit un livre de savoir comment il va être perçu, appréhendé. J'espérais que les gens allaient dépasser le pur cadre du thriller pour comprendre un peu ce que je voulais raconter en creux, et c'est exactement ça. C'est envie d'aller vers un message de tolérance sans être trop candide non plus. Le monde est complexe, mais je pense qu'on a besoin d'un peu de tolérance et d'espoir. Et donc, comme vous le disiez, Sophia et Gabriel sont un peu deux personnages en miroir qui sont dévorés par les cicatrices de leur passé. Sophia, elle... Donc, il s'est passé quelque chose plus tôt dans son histoire, mais elle fait tout pour annihiler ça, pour l'effacer, pour aller de l'avant, pour oublier ce qui s'est passé. Malgré elle, ses souvenirs frappent à la porte de son esprit. À l'inverse, Gabriel, lui, il est en boucle. Il s'est passé quelque chose 2 ans plus tôt qui a complètement chamboulé sa vie, qui l'a détruit à jamais, et lui revient incessamment, sans s'arrêter, sur cet instant décisif qui a tout changé dans sa vie. Et il peut plus avancer. Lui, il est vraiment en pause. On le découvre d'ailleurs au début du roman sur un quai de gare. Et je voulais vraiment que, dès la présentation des personnages, on les comprenne. Et donc, Gabriel est sur un quai de gare. Il voit passer les trains. Et lui, en fait, il n'embarque plus. Il est à quai.
On est plus qu'avec eux. On est carrément dans leur tête par moment. C'est aussi votre écriture. Il y a un travail d'écriture un peu comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'on voit une partie qui est en train de se mettre en place. On sait pas qui est le fou, qui est le cavalier, où se trouve le roi, la reine. On sait juste que le personnage principal, c'est un plateau principal, c'est un château.
Oui.
Ce château, il est très, très important. Puisqu'il met en scène effectivement cette famille, la famille Mirval. Je vais essayer de ne pas raconter trop de choses, mais c'est une famille qui possède cette propriété depuis plus d'une centaine d'années. Elle est obsédée par les 9 cercles de la
Divine Comédie
de Dante. Ouais. On a l'impression de ne pas vivre dans la même vie, en fait.
Ouais.
On a l'impression d'être dans un cauchemar permanent. Et sauf que cette réalité, elle existe aujourd'hui, Olivier Mal.
Tout à fait. J'avais cette envie d'un roman qui surprenne, qui glisse vers d'autres territoires. Donc, vous entraînez sur les codes du thriller, avec ces 2 enquêtes en parallèle, avec cette traque. Et puis, lentement, de manière peut-être un peu insidieuse, vous emmenez vers d'autres territoires. Donc, cette envie de raconter un lieu qui est comme un personnage, vous l'avez très bien compris, le domaine donc de Noirval, son château, sa volière, son labyrinthe, que les Mirval ont acquis et développé depuis 150 ans. Et tout est construit de manière très organique autour de leur obsession, en effet, des 9 cercles, la Divine Comédie de Dante. Et en fait, les personnages qui y vivent, donc Armand Mirval, le père de Victor, qui est le fondateur de la meute, un jeune qui est très charismatique, charismatique, très complexe, vivent un peu reclus dans ce château. Et Sofia va être obligée de s'infiltrer au cœur de la meute et donc aussi d'intégrer le château de Noirval et pour franchir une série d'épreuves. On va pas trop en dire en effet. Et j'avais cette envie d'aller dans le territoire du gothique. Aussi pour m'éloigner du réel, ramener la fiction, comme je vous le disais tout à l'heure, pour justement essayer de raconter un récit qui vous emmène dans l'imaginaire, tout en vous racontant quelque chose. J'ai toujours, moi, aimé les romans gothiques, donc Rebecca de Daphné du Maurier, Le Tour d'écrou, les films aussi comme La Splendeur des Amberson ou La Maison du Diable de Robert Wise. Et donc, je rêvais de jouer avec ces codes-là. Et puis aussi, pas flirter avec le fantastique, mais raconter un lieu qui...
Il y a un côté mystique.
Voilà, dévoile un peu les personnages. C'est que finalement, tous ces personnages, au gré des pages, vous avez cette sensation que Noirval se referme sur vous, que les ronces vous attrapent, vous saisissent, et que vous-même, vous devenez un fantôme qui erre comme ça dans ce manoir. Et en effet, comme vous le disiez, qui raconte aussi cet enfermement sur soi, cette société de la peur où tout est menace, où tout est danger. Voilà.
Il y a un côté Belle et la Bête, en fait.
Oui.
Non, mais réellement, c'est assez fou. Par moments, je me disais, ces ronces, elles incarnent quelque chose.
Ou
la Belle au bois dormant. Enfin, il y a un truc, et on espère que le ciel rééblouisse de nouveau ce paysage qui est glaçant, quoi.
C'est ça. Et puis, en effet, la petite histoire rejoint la grande, puisqu'on espère aussi que peut-être un peu plus d'humanité et de respect les uns envers les autres.
Vous dites d'ailleurs à un moment donné, par le biais d'un personnage, l'humanité est morte.
Alors ça, c'est le travers des auteurs de polar et de thriller. Je pense qu'on a une forme de noirceur en nous. Je pense qu'on passe notre vie d'écrivain à aller puiser dans les ténèbres, à aller creuser nos zones d'ombre pour chercher la lumière. Donc en fait, je pense que j'ai peut-être un fond un peu pessimiste, mais comme vous l'avez compris aussi, vous en parliez tout à l'heure, je garde toujours une forme d'optimisme, je crois en l'homme. J'ai peur de ce que peut faire l'humanité, mais je crois fondamentalement en la capacité de l'homme à s'accomplir, à être meilleur. Voilà. Donc je suis un peu idéaliste quand même, même si je suis quand même pessimiste.
Qu'est-ce qui fait que vous ayez eu envie de vous mettre à écrire, Olivier ? Parce qu'à la base, il y avait effectivement cette envie de raconter des histoires. Ouais. Ça, elle a toujours fait partie de vous, puisqu'on ne devient pas journaliste autrement que si on n'a pas envie de raconter une réalité, en remettant évidemment des informations dans leur contexte. Mais on est là pour informer, donc... On a ce sentiment de transmission qui est vraiment l'essence même d'ailleurs de cet ouvrage. Qu'est-ce qui fait que vous ayez eu envie d'écrire ?
Je crois que l'envie de raconter des histoires, elle a toujours été là en moi, ancrée depuis que je suis tout môme. Quand j'étais petit, je passais plus de temps à imaginer l'histoire de mes personnages, que de mes jouets, que de jouer vraiment avec eux, aux grandes dames de mes camarades qui s'impatientaient un petit peu. Ensuite, ça a été les petits films en caméscope avec du fil de nylon, des pétards, et j'imaginais des fresques de science-fiction. J'ai mis du temps à me trouver dans l'écriture. J'ai tourné, voilà, comme vous le disiez très bien, autour du roman, qui était pour moi comme un Everest un peu infranchissable. Ça me faisait peur d'écrire un livre. J'adorais lire, mais pour moi, c'était trop gros, c'était trop grand. Et puis finalement, doucement, en prenant peut-être confiance, en écrivant des choses qui sont certainement aujourd'hui lisibles, mes premiers scénarios, ma pièce de théâtre, j'ai fait un documentaire, je me suis acclimaté à la narration. Et finalement, cette envie est plus grande que moi, me dépasse, et donc c'est ma passion, elle m'habite. Et donc à un moment, il a fallu me lancer dans le bain. Ces personnages frappaient à ma porte, me murmuraient à l'oreille, et il a fallu les écouter un moment, quoi.
Donc vous avez publié votre premier roman, succès immédiat, d'abord adopté par les lecteurs. Est-ce que c'est pas le plus beau cadeau, ça ?
Absolument, ça a été vraiment une surprise étonnante, d'autant que mon premier livre, Les Limbes, était un thriller avec une dimension fantastique, donc pas vraiment accessible. Ça avait été assez compliqué, j'avais échangé avec pas mal de grandes maisons d'édition, mais elles avaient du mal à le mettre dans une case, que je comprends aujourd'hui. Et en effet, je me suis lancé dans l'auto-édition en me disant, bon, ce qui compte finalement, c'est de savoir. Je dis souvent, est-ce que quelqu'un va répondre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil ? En sortant comme ça du cercle des amis, de la famille, de se dire que j'ai eu la chance d'avoir un parrain de cœur, Franck Tillier, qui, quand je me suis lancé dans Les Limbes, me disait, ce qui compte, Olivier, c'est de se dire, voilà, chaque lecteur est important. En ce moment, peut-être quelqu'un te lit quelque part. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché en lançant Les Limbes, c'est j'avais un imaginaire un peu foisonnant, un peu complexe, un peu étrange, et il y avait... des personnes, des lectrices et des lecteurs qui étaient là à l'autre bout du fil et qui étaient prêts à recevoir et à accueillir mon univers. Donc ça a été très puissant, très fort, et ça m'a donné confiance et ça m'a donné envie de continuer, de me lancer quelques années plus tard à 100% dans l'écriture.
Donc vous êtes passé depuis maître des limbes et maître du polar. En tout cas, vous faites partie de cette génération qui offre et qui propose des choses. On n'a pas parlé de la liberté. Mmh. J'ai l'impression que la liberté, c'est le fil d'Ariane de cet ouvrage, en fait. Ce besoin d'aller recouvrer notre liberté, de se battre pour la recouvrer, de ne plus être manipulé.
C'est ça.
De ne plus subir l'endoctrinement.
C'est vraiment le sujet qui me fascine à travers mes livres. Peut-être falloir que je change de thématique, ça va finir par se voir que je raconte tout le temps la même chose. Mais c'est en effet le poids du collectif par rapport à celui de l'individu. Est-ce que le libre arbitre existe ? Est-ce qu'on peut prendre nous-mêmes nos décisions, exister en soi, au-delà de la société, au-delà même du cercle familial qui parfois peut être étouffant et qui peut dévorer ? Et donc, c'est vraiment cette problématique de liberté, comme vous disiez justement. Est-ce qu'on est libre de nos choix? Est-ce que la société qui nous entoure, les médias parfois, ce poids aussi des réseaux sociaux qui nous enferment, qui nous étouffent, nous fait vraiment prendre la pleine mesure de ce que l'on vit et tout ça? J'ai pas vraiment la réponse. Je pose la question, c'est déjà pas mal, je crois.
Et puis, vous parlez de la transmission, inévitablement, ouais. Avec l'héritage qu'on peut avoir de nos parents. Qu'est-ce qu'on en fait de ce chemin qui est tracé pour nous? Est-ce qu'on a la force et le courage, à un moment donné, de se dire que le chemin qu'on a emprunté parce qu'on nous a conseillé de l'emprunter ne nous correspond pas et donc il faut en créer un autre en parallèle? C'est un peu ça que vous nous dites aussi.
Absolument.
Avec un maître mot qui est celui de la tolérance.
C'est ça. L'envie, c'était exactement ça, à travers la famille des Mirval, à travers le parcours de ce jeune Victor qu'on va suivre de la prime adolescence jusqu'à son âge adulte, qui lui va être complètement endoctriné, qui va être manipulé quelque part par son père, qui va lui faire passer toutes ses épreuves en lui promettant qu'il était l'élu, en lui promettant qu'il était celui qui allait relever la France. Est-ce que ce jeune va pouvoir un moment ouvrir les yeux sur sa condition, sur ce qu'il est vraiment, sur ce champ de violence qu'il appelle? Et à travers un autre personnage s'appelle Louis, qui est finalement son entraîneur, son garde du corps, et qui va un peu résonner en écho à celui de Victor. Est-ce qu'on peut un moment trouver une rédemption, comme vous le disiez, se réinventer, prendre un autre chemin que celui qu'on nous impose? La question est ouverte.
Merci beaucoup Olivier Ball d'être passé dans le monde d'Élodie.
Merci
France
infiniment.
Info. Ça s'appelle La Meute et c'est sorti chez XO Éditions. Attention, frisson garanti quand même.
Merci beaucoup Élodie.